Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zichrona Livracha. On continue sur le sujet qu'on a déjà entamé une dernière fois sur l'époque messianique. Il faut savoir qu'il y a une divergence d'opinion chez les grands commentateurs sur la définition de ce que c'est que Olam Haba, le monde à venir. Il y en a qui disent que c'est le monde qui est après la mort. Après la mort, si l'âme est méritante et n'a aucun péché, ce qui est rare, bon, ça peut arriver, si elle a beaucoup souffert, si elle fait tchouva, elle peut aller directement dans l'âme Haba. Sinon, elle a ses différents purgatoires. Puis, Bezrat Hashem, si elle a droit, au Olam Haba. Quel Olam Haba? Le monde des âmes. Le monde des âmes. Le paradis. Il y a un paradis inférieur, il y a un paradis supérieur. En fonction des mérites, on va et on monte sans cesse en se rapprochant de la divinité de façon infinie pour l'éternité. Ça, c'est l'Olam Haba. D'autres disent, non, ça c'est une sorte d'Olam Haba, on va dire, c'est la salle d'attente, qui est effectivement paradisiaque, mais ce n'est pas le but. Hachem veut que toutes les parties de l'être humain aient droit à la connaissance de Dieu, à la fusion avec Dieu. Or, quand on meurt, une partie, on a cinq parties d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, de bas en haut. Chacune de ces parties d'âme est divisée elle-même de nouveau en cinq parties. Donc dans le Nefesh, on a Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Le Nefesh lui-même est subdivisé en Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et chacun de ceux-là aussi. La partie la plus petite du Nefesh, elle se pose sur les eaux, dans la tombe, et reste là-bas. Et Dieu veut que aussi cette partie qu'on va appeler le corps, certains, comme je l'ai dit la dernière fois, certains disent que c'est le corps lui-même, il y aura une renaissance du corps physique, d'autres disent non, ça sera qu'une renaissance de l'entité spirituelle la plus basse, donc le nefesh du nefesh du nefesh, qui repose sur les eaux. Cette partie aussi a droit à connaître Hachem. Elle a souffert, elle a investi, d'accord? Le corps, il a investi. Tu vois une bonne côtelette de jambon, bon, c'est rare que quelqu'un ça lui fasse de l'effet, mais quelqu'un se fait de l'effet des crevettes, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Ou il est dans l'avion, on va dire un cas beaucoup plus... il reçoit cache-route, enfin la politique un peu, bon, une cache-route mauvaise, je ne vais pas dire le nom, sur le vol, je ne dirais pas de quelle compagnie non plus, sur El Al, c'est bon, d'accord? C'est badass, on peut recevoir... Le El Al, si on ne demande pas super cachère, c'est pas bon. Mais si on demande badat, c'est bon. Les autres compagnies, c'est pas bon non plus. Il n'a pas pris de pique-nique avec lui pour le vol. Il a un petit creux qui devient grand. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, un bon juif ne mange pas. Parce que c'est pas certain que ce qu'on nous sert comme étant cachère soit cachère. Ça s'appelle cachère, mais c'est pas du vrai cachère. C'est pas du vrai bon cachère, en tout cas. Le souffle, le corps souffre. Le corps investit. Pourquoi seulement l'âme aurait droit à connaître Hachem, au paradis, etc., et pas le corps? Le corps aussi, il a droit. C'est juste pour cela que Dieu veut que le corps aussi participe à cette fusion avec Hachem, donc à lieu ce qu'il appelle la résurrection des morts, où les âmes du paradis reviennent dans la partie basse du corps, ce nefesh du nefesh du nefesh qui repose sur les eaux, ou même l'après la vie qui dit que même la chair elle-même se recrée, et à ce moment-là, vu que l'âme a été quelque part réénergisée de façon extrêmement puissante dans le paradis, elle revient avec une force tellement grande qu'elle peut faire que ces parties qui sont les parties plus basses montent au point tel de fusionner aussi avec Hachem. La question se pose, pourquoi quand je meurs, Dieu laisse une partie de l'âme sur les eaux, que tout monte? Qu'il n'y ait plus rien ici en bas. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça reste en bas? Pour qu'on fasse revenir les parties d'âme en haut dans le corps en bas. Parce que ces parties basses n'avaient pas la puissance de monter. Et l'âme, notre âme telle qu'elle est aujourd'hui, n'a pas la puissance quand elle meurt de faire monter ces parties-là. Elle va se réénergiser dans l'Olam Haba, à l'époque de la résurrection des morts. Elle redescend dans le corps, et là, avec une puissance de lumière tellement grande, qu'elle peut faire que ces parties-là se réveillent, ont droit à la vie et peuvent fusionner avec Hachem. Certains disent que c'est ça Olam Haba. Que toute la période qu'il y a depuis le décès d'une personne, même il y a 5000 ans, jusqu'à résurrection des morts, ça c'est pas Olam Haba, ça c'est la salle d'attente, d'accord, paradis. Mais c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que toutes les parties de l'être fusionnent avec Hachem, et c'est ça qu'on appelle Olam Haba, la résurrection des morts. Peu importe l'appellation, en tout cas nous apprenons qu'il y a deux périodes. Celle qui est après la mort, et les parties du corps restent, le nefesh et le nefesh restent près du corps, et après la fusion du tout, et là, alors qu'est-ce qui se passe à la résurrection des morts? Ceux qui sont vivants, comme on l'a dit la dernière fois, à un bon moment, ils se débarrassent de leur... Ils reçoivent tout d'un coup un pli du rabbinat. On vous avertit que dans le ciel, vous êtes arrivé au deux... On a jugé que vous êtes arrivé au degré de sainteté suffisant pour vous débarrasser de votre corps. Donc préparez-vous, ce débarrassement aura lieu lundi prochain à 12h05. Arrangez tout ce que vous avez à faire parce que vous passez de corps de corps de chair à corps de lumière. On fait une grande fête, on est très content qu'enfin on se débarrasse de ce corps de chair qui est que encombrant, d'accord. Une fois qu'on est que lumière, on fusionne avec Dieu beaucoup plus, on traverse les murs, enfin tout est beaucoup plus simple dans la vie, d'accord. On se voyage à la vitesse de la pensée, etc. J'imagine que c'est beaucoup plus intéressant. On fait une grande fête pour dire au revoir à nos copains qui n'ont pas encore eu la chance de quitter leur corps de chair, et bye bye, 12h05 lundi, zip, on enlève le corps de chair et on obtient un corps de lumière. Ça s'appelle la résurrection des morts. C'est un processus qui va durer depuis 40 ans après le dévoilement du Messie jusqu'à l'an 6000. À l'an 6000, toute l'humanité a réussi déjà à transformer son habit de chair en habit de lumière. La période de résurrection des morts est finie. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le monde ne sert plus à rien. Et tout cela, d'un côté, s'appelle disparaît et détruit, c'est écrit. Mais ça signifie quoi, détruit? On n'a plus besoin maintenant de cela. Et tout monte. Monte dans la divinité. Et il y a fusion avec la divinité. Et là, on va continuer à monter pour l'éternité. Oui.
Est-ce que les Neshamot qui vont vivre quand il y aura Mashiach, elles ont plus de valeur que les gens qui sont déjà au ciel? Parce que vu que quand le Mashiach va arriver, ça sera le but ultime, ça sera le plus gros, ça sera le plus dur pour les gens qui vivent sur place.
Est-ce qu'ils auront plus de mérite? Il y a un mérite.
Plus de mérite, plus de valeur, parce qu'on vit dans le pire. Enfin,
le Kedusha.
Le plus de Kedusha, quoi.
Je n'ai pas compris. Il y aura plus de mérite, plus de Kedusha? On va dire en deux mots. Voir la venue du Messie, c'est un grand mérite en soi. Je veux dire ce que je pense du fond, de ce que je pense comme ça, une petite pensée personnelle. J'ai dit que la résurrection des morts, elle commence 40 ans après la venue du Messie, n'est-ce pas? Mais Yann Gmara, dans le traité Ta'anit à la fin, qui dit que tous ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem vivront sa réjouissance. Demande les Rishonim, le Ritiva entre autres, il pose la question. Ok, si moi maintenant je suis la génération où le Messie il arrive, si j'ai pris sur moi le deuil de Jérusalem, j'aurai la chance de vivre la réjouissance, si j'ai la chance de voir Mashiach. Mais tous les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de tzadikim qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem durant toute l'histoire, qui sont dans la tombe, ils ne sont pas là. Dit le Ritiva, il y aura une résurrection des morts spéciale pour ceux qui ont pris sur eux durant l'histoire. Toutes les personnes qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem durant l'histoire auront droit à une résurrection spéciale avant la venue du Messie pour voir la reconstruction de Jérusalem. Quand on voit la reconstruction de Jérusalem, c'est la construction du temple. À mon humble avis, d'après ce qu'on a dit la dernière fois, que les choses restent tout à fait non miraculeuses, le monde, comme la vie de Shmuel, comme la vie de Rambam, Olam Kimnago Noheg, qu'à l'époque messianique, tout reste normal au niveau physique, il n'y a pas de miracle. D'après le Lechem, seulement plus tard, durant les 40 ans, on passe à une phase plus miraculeuse. Mais au début, tout reste normal. De coup, que les tombes s'ouvrent et que tout le monde dise « Coucou, c'est moi, Abraham, Israël et Jacob, ils sont tous là. » Bon, c'est écrit. Je pense, à mon avis, que ça se passera comment? Effectivement, tous les tzadikim de tous les temps qui ont pris sur eux le Dieu de Jérusalem sont là. Dieu les a ressuscités, mais au lieu de les faire sortir de la tombe, coucou, c'est moi Dracula, ou Abraham Avinu, d'accord, ils sont revenus réincarnés. Donc c'est nous-mêmes, Bezrat Hashem, si on a la chance de voir la reconstruction du temple, ce dont je suis convaincu, Bezrat Hashem.
Tikkun Hatzot, pour le deuil de Jérusalem.
Entre autres, Tikkun Hatzot.
C'est-à-dire, entre autres.
D'abord, il y a toutes sortes de lois, on n'écoute pas de musique.
À toute sa vie?
Seulement dans les smachot, seulement quand il y a un mariage ou une bar mitzvah ou d'accord, une simcha, voilà, ok.
C'est un vrai
deuil.
Hein? Vous pensez qu'on peut être à 25 Yaakov, etc.
Toi et moi, je pense pas qu'on est à 25 Yaakov, mais on est peut-être des réincarnations de personnes. C'est clair que ceux qui vont vivre, que c'est clair que Bezrat Hashem, on va le vivre. Bezrat Hashem. J'espère. Je pense qu'on méritera de le voir. Maintenant, c'est clair que ce mérite-là, pourquoi à nous et pas à un autre? Pourquoi Dieu t'a fait naître cette génération, sachant très bien que tu verras Mashiach? Donc, il y a un certain mérite, il y a quelque chose. Quoi? On est si bien, on est des nuls, d'accord? C'est certain qu'il y a un passif de réincarnation passée qui a fait que... J'imagine que parmi ce passif, il y a ceux qui ont pris sur le Dieu de Jérusalem, ou j'imagine que ça correspond à tous ceux qui ont souffert dans l'exil, parce qu'ils étaient juifs. Donc tous nos frères qui sont morts dans la Shoah, certainement des millions d'entre eux sont réincarnés maintenant ici. C'est clair. Il dit à Dieu, j'ai souffert, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que j'étais juif, je mérite. Peut-être, ces personnages, je ne sais, je n'ai pas vu ça écrit. Mais c'est une façon qu'on pourrait d'avoir d'expliquer cette Gemara de Ta'anit, d'après la vie qui dit que rien de miraculeux a lieu quand le Mashiach arrive au moment même. Il y aura des miracles extraordinaires, mais il n'y aura pas de changement dans la nature. Comme j'ai dit, que tout à coup, le lion, il broute de l'herbe à côté de la brebis. Oui.
Les deux Jérusalem, ça fait des tchalèves.
Les deux Jérusalem, c'est en général, c'est pleurer la destruction du temple. Pleurer, en tout cas, c'est avec des larmes, attendre aspirer très fort à la reconstruction du temple, être en tristesse de cela. Tristesse que quoi? C'est pas que le temple, simplement, c'est que le peuple d'Israël est en exil, qu'il n'y a pas de sanctification du nom de Dieu, que le nom de Dieu il est blasphémé, il est souillé, il est profané, que le peuple d'Israël est profané avec la Shrina, d'accord, c'est un grand chibou Hachem. Alors, ça se dit dans Birkat HaMazon, on en parle. Dans la prière, on en parle. Dans Tikkun Chassot, on en parle. Dans les trois semaines de Tisha B'Av, on en parle. Comme je dis, on n'a pas le droit de d'écouter de musique, normalement, à cause de cela. Aujourd'hui, les rabbinis me disent, celui qui sera en tristesse à cause de cela, alors mieux vaut qu'il écoute de la musique, parce que la tristesse est pire que tout. Il y a quelqu'un qui arrive à rester heureux sans écouter de la musique, ce qui n'est pas facile, et pas tout le monde y arrive. C'est certain que c'est conseillé, d'accord? On ne peut pas écouter de la musique, normalement, c'est comme ça. Alors, tous ceux qui prennent sur eux le Dieu de Jérusalem, chacun avec sa mesure, effectivement, nous ne sommes pas des grands tzadikés, alors, Bezrat Hashem, ils reverront la reconstruction. J'ai vu dernièrement, ça fait longtemps que je recherchais, une question qui est posée souvent. Est-ce que le Mashiach, il sait qu'il est Mashiach? Alors, il y a des centaines de gens dans le monde qui savent qu'ils sont Mashiach. Alors, c'est certainement pas eux. Parce que Mashiach ne sait pas qu'il est Mashiach. C'est uniquement, comme j'ai dit la dernière fois, qu'il y a son âme, la Yerida, qui est dans un endroit du paradis qui s'appelle Kan Tzipor, le nid de l'oiseau. Quand cette âme-là descend dans cet homme-là, il se trouve investi des pouvoirs extraordinaires qu'il aura à ce moment, là, il sait qu'il est Mashiach. Est-ce que nous savons à ce moment qu'il est Mashiach, oui ou non? Non. Non. On n'aura qu'une présomption. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de faux messies durant l'histoire, même des faux messies qui ont fait beaucoup de miracles, beaucoup de prophéties, beaucoup de choses qui sont réalisées, beaucoup de choses. J'ai lu dernièrement sur le Rambam, il a écrit, c'est très beau, je recommande extrêmement la lecture, ça s'appelle Épître au Yémen, d'accord? On a quatre lettres qu'a écrit le Rambam à l'époque, il a écrit des milliers, mais on a quatre lettres qui sont très épîtres, donc importantes. Une qui est écrite au Yémen, la communauté du Yémen lui a écrit qu'il y avait chez eux un tzadik qui prétendait qu'il était le Mashiach. Et il voulait savoir quoi faire. Il a dit que tous les riches donnent l'argent aux pauvres, que tous les riches donnent tout leur argent aux pauvres. Le Rambam écrit une très grande lettre, très longue lettre sur qu'est-ce que c'est l'époque messianique, comment ça serait, et vraiment c'est un vrai séminaire, c'est toutes les bases de la foi juive, c'est très un des noms qui était donné à cette épître, c'est Petar Tikva, ouverture d'espoir, ça donne beaucoup d'espoir, les pauvres au Yémen, ils souffraient énormément. D'abord, il dit que ce Mashiach, il est complètement crétin, parce que si tous les riches donnent tout leur argent aux pauvres, alors qui sera riche? Les pauvres. Et qui sera pauvre? Les riches. Alors, il faut que tous les riches, maintenant, qui ont l'argent des riches d'avant, redonnent aux riches d'avant. D'accord? Donc, ils sont de nouveau pauvres. Et vice versa, on va jouer au ping-pong. Ridicule. Et en plus, il y avait un problème. La question qui était posée, c'est ça, que c'est si ce Mashiach-là, maintenant, si on l'élimine, ils vont nous traiter d'assassins. Si on le garde, les Yéménites, les Arabes, ils vont dire « Oulala, ça devient dangereux ici, ça devient un mouvement nationaliste dangereux, et ça sera un pogrom. » Donc si on le laisse vivant, on meurt tous. Si on le tue, on meurt aussi parce qu'on est un assassin. Alors, le Rambam m'a conseillé de l'enfermer, disons qu'il est fou. C'est d'ailleurs sûrement le cas, d'accord, il devait être passablement fou. Et donc, dans l'introduction à cette épître du Yémen, dans l'édition de Moussad Arav Kouk, là-bas, il cite une autre lettre qu'a écrit le Rambam, racontant l'histoire de plusieurs faux messies de son époque. Il raconte d'ailleurs, c'est intéressant pour les Lyonnais, il raconte que du temps de son père, Rabbi Maimon, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, il y avait un faux messie qui s'est dévoilé à une grande ville de France, dans laquelle il y avait 10 000 familles juives, Lyon, comme ça, Lyon, comme ça il écrit, d'accord, Lyon, 10 000 familles juives, et il y avait un faux messie qui, alors, c'est marqué que le messie, il sera comme les nuages dans le ciel, alors il sautait d'arbre en arbre, comme ça, disant qu'il est comme un nuage, comme ça, bon, et tout le monde y a cru, et les Frankim sont venus, les Français, les ont massacrés, c'était terrible, d'accord, parce qu'un mouvement nationaliste qui commence à se réveiller comme ça. Il raconte du temps de son père aussi, il y avait un grand tzaddi qui venait de Dara. Dara, une ville au Maroc, dont tous ceux qui viennent de cette ville, on appelle Dari, comme le ministre, enfin, comme on appelle, Arya Dari du parti Chasse, d'accord, Dari, qui vient à la base de Dara. C'est un grand tzaddi, reconnu comme grand tzaddi, qui a commencé à annoncer des choses. Et tout ce qu'il annonçait se réalisait. Il a dit, demain vous verrez, il y aura une pluie de sang qui va tomber. C'est comme c'est marqué dans les versets, il y a un verset qui parle de pluie de sang. Effectivement, elle est tombée, c'est une sorte de tempête de sable, avec une sorte de sable rouge qu'il y avait, et l'eau qui tombait était rouge. Et tout le monde y a cru. Il leur a dit, vendez tout ce que vous avez à bas prix, parce qu'on va tous aller en Israël, etc. Pouvez aussi maintenant emprunter de l'argent avec des taux d'intérêt très hauts parce que vous aurez de quoi rendre l'argent, etc. Et tout le monde a fait cela, ils ont cru, parce qu'à Pessah, Mashiach se dévoile. Et tout le monde a fait ça, et Mashiach n'est pas. Et le père du Rambam a dit il ne faut pas croire à ça, on ne sait pas certain que c'est Mashiach. Tout le monde y a cru, n'ont pas écouté les sages d'Israël, et c'était terrible. Lui, il a fui après en Israël. Et le commentateur a dit que c'est intéressant de voir le Rambam parle avec lui avec beaucoup de kavod, bien qu'en fait il a fait beaucoup de mal, mais c'est comme un grand sadique, quelqu'un qui... Bon, alors...
Il voulait faire du mal ou...
Il ne pas qu'il voulait faire du mal, voilà, il est sur lui aussi, et pour finir, il s'est planté. On ne sait pas comment Mashiach revient, il y a eu beaucoup de cas, beaucoup d'histoires de gens qui ont cru dans l'histoire que c'était Mashiach, et le cas Chabtetsi, évidemment, que Paul Israël y a cru. Donc il faut faire attention. Quand savons-nous, d'après le Rambam, que Mashiach est Mashiach? Alors il dit, le Mashiach, pour qu'on soit certain que c'est Mashiach, il faut qu'il fasse quatre choses. Tant qu'il n'a pas réussi à faire ces quatre choses, il n'y a qu'une présomption. Peut-être c'est lui. On est super méfiant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pratiquer les guerres de Gog ou Magog contre les ennemis de Dieu qui vont venir se battre. Donc il y aura une union des peuples pour aller conquérir Jérusalem. Et c'est Mashiach qui doit, au cours de cette guerre, se dévoiler et faire en sorte que cette attaque contre Jérusalem échoue. Il doit ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Mieux que l'agence juive. Il doit reconstruire le temple de Jérusalem. Il doit faire en sorte que tous les juifs deviennent pratiquants et se mettent à étudier la Torah. Quand il a fait tout ça, ok, on est content, on met les habits de fête et c'est la fête. Bien attaché. Avant,
ça
prend des années pour toi et moi, mais Hachem, il fait comme ça.
Si quelqu'un monte aujourd'hui sur le construire le temple de Jérusalem, tout le monde va dire...
Pardon ?
Si quelqu'un se lève et si on veut construire le David.
D'abord, on n'a pas le droit de mettre les pieds là-bas au temple de Jérusalem. C'est un nom, parce qu'on est tous impurs. Donc il faut qu'il y ait un prophète. Il faut qu'il y ait un Kohen Gadol qui ait survécu le tzitz. D'accord ? Et pour le Kohen Gadol, il faut être moins par un prophète. Avec l'huile d'onction dont la recette est marquée dans la Torah. C'est pas.
C'est pas une présomption, alors on est sûr de lui.
J'ai pas compris.
C'est pas un doute. Quoi.
Tant qu'il n'y a pas ça, il y a de fortes présomptions, mais c'est pas du 100%. C'est pas du 100%.
Si on voit un prophète, un pèlerinage construit, ça, c'est sûr que c'est la personne. Pas pour dire en fait c'était pas le vrai, on refait.
Et si après la quatrième chose, il n'arrive pas à faire en sorte que tous les juifs deviennent pratiquants et étudient la Torah.
Ils détruisent le Beth Amikdash, ils en font un autre.
Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique que j'ai dit, hein, les quatre. Ça se peut qu'une fois que les juifs seront pratiquants et vont reconnaître la divinité et vont étudier la Torah, à ce moment-là, le temple descend du ciel, etc.
Mais c'est une signe de la vache rousse, plein de trucs comme ça, non?
Pardon?
Il y a plein de signes aussi là.
C'est quoi le signe de la vache rousse? Une vache rousse est née en Norvège, alors quoi? C'est un signe, alors. Il y en a toujours eu des vaches rousses, c'est pas.
De quelle manière il va arriver les chiffres?
On ne sait pas exactement comment ça aura lieu.
C'est vraiment la vache rousse?
Hein?
La vache rousse, c'est pas.
Il y a eu 9 vaches rousses durant l'histoire. La 10e, c'est ma chère qui doit la faire. À chaque fois qu'il y a une vache rousse qui naît dans un troupeau dans le monde, tout le monde est content. Bon, mais c'est pas la première fois qu'est née une vache rousse dans le monde. Tous les quelques temps, il y en a une. Les vrais signes, comme quoi nous sommes très proches de l'époque messianique, c'est comme je dis la dernière fois, qu'il y a un retour physique, du peuple d'Israël en terre d'Israël. Et quand je parle de retour physique, l'action n'est pas sur les juifs non religieux qui habitent Israël. Mais l'accent est surtout sur le monde de la Torah. Le monde de la Torah, les grands de Torah, les grands yeshivot sont tous en Israël. Il y a quelques autres yeshivot à l'extérieur. Il n'y a aucun grand de Torah comme ici en Israël à l'extérieur. Le dernier grand Torah qu'il y avait, c'est le Rav Yaakov Kamenetsky et le Rav Moshe Feinstein. C'est les deux derniers grands qu'il y avait à l'étranger en Amérique. Dès lors, tous les grands sont en terre d'Israël. Et le monde yeshivot, le plus florissant et le meilleur, est en Israël. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'à l'époque du Talmud, Rav, qui était en vers l'an 250 de l'ère chrétienne, il quitte Israël et va en Babylonie. Avec lui, on peut dire, on commence l'exil du monde de la Torah. Que déjà, des grands centres de Torah étaient en Babylonie, à un point tel où on quitte Israël et on va en Babylonie parce que la Torah de Babylonie est meilleure que celle d'Israël. Là, il y a un retour du monde de la Torah en Israël, ça c'est le plus grand signe. Le retour de la Tchouva, donc vous êtes les meilleurs acteurs, messieurs, et la France surtout, où il y a beaucoup de balais de Tchouva, d'accord, le fait que des gens sont miraculeuses par millions dans le monde, reviennent à la Torah, c'est pas forcément que tous deviennent des grands orthodoxes, etc. Mais pas quelqu'un qui était non-croyant, il devient croyant. C'est déjà pas mal. Un qui mange du porc, il mange plus de porc. Un qui était marié avec une non-juive, il quitte sa non-juive. Toutes ces choses-là sont un mouvement de tchouva. Alors évidemment, ça fait que ceux qui sont dans le fer de lance, alors ils font une tchouva totale et deviennent des bnei Torah. Mais c'est un mouvement général. Ça, c'est marqué clairement dans Parashat Nitzavim de la Torah. Quand il y aura ce retour physique et cette tchouva du peuple d'Israël, c'est l'époque messianique. Ça annonce que l'époque messianique est extrêmement proche. Le Rambam aussi écrit cela, que la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Donc ce immédiatement, il est très très proche d'Ezrat Hashem. Ça, c'est les grands signes. Aussi, le fait que la terre d'Israël donne ses fruits de son abondante, le fait qu'il y a une grande opposition au monde de la Torah de la part des Juifs eux-mêmes. Il y a d'autres signes qui sont écrits, voilà.
Est-ce que au niveau de tout ce qui est mangé, ce sera tout pareil?
Alors, si la Halakha est comme Shmuel et le Rambam, qui disent que le monde continue normalement, quand Mashiach vient, au niveau physique, tout continue normalement. On va manger, on ira aux toilettes, on ira dormir. Ah, les aliments non cachers resteront non cachers. Viendra, comme je l'ai dit la dernière fois, un moment quand le Mashiach il va enlever tout le mal du monde, et après il va enlever même le profane, alors même les aliments non cachers deviendront cachers. Il y a un midrash, comme on dit tous les matins dans le Tehilim, Hachem matir asurim. C'est quoi dans le sens simple? Hachem matir asurim, Dieu délivre les prisonniers. Mais c'est quoi quelqu'un de prisonnier? C'est quelqu'un qui est attaché, d'accord? Maintenant, comment on dit un interdit? On dit issour. C'est quoi aussi une chose qui est attachée? C'est prisonnier. Je n'ai pas le droit, moi, de manger cette chose-là. Je suis prisonnier de la manger. Alors, matir asurim, il délivre les issourim, les interdits. Dit le Midrash, le porc, à la fin, sera cachère. D'où son nom, d'ailleurs, chazir, qui vient du mot, la racine chazar. Il revient à être cachère. Ça, c'est une époque plus loin. Ça sera dans les 40 ans, mais pas dès le début, dans les 40 ans. Quand le mal va être éradiqué du monde, de façon totale, alors il ne peut pas y avoir de choses qui sont maintenant impures. Tout devient pur.
On va être en contradiction avec la Torah, parce qu'elle a dit qu'une bête qui ne rumine pas et qui abaisse à beau fond de jus, et ben, elle ne sera pas cachère.
T'as raison. Il faudra penser qu'il y aura une autre configuration de cet interdit-là. comme j'expliquais l'autre jour, que les fêtes seront dimanche, lundi, mardi, etc. Tout prendre une autre configuration.
Et les mariages, il y aura.
Alors, bien sûr, on se mariera. Il y a même un midrash qui dit que aujourd'hui, lorsque la femme a fait donc le péché originel, elle a été maudite qu'elle aurait de la douleur à l'enfant lors de l'enfantement et aussi tsar et rayon, la douleur de la grossesse, 9 mois. Fini. Tous les jours, les femmes vont accoucher. Qu'est-ce qu'elles seront contentes, d'accord ? On aura beaucoup d'enfants, voilà. Ouais, plus les jumeaux encore.
Alors, c'est là où on va être.
C'est écrit qu'en Égypte, les femmes avaient 6 enfants par grossesse. Donc.
Alors, c'est là où on va être comme le sable de la terre.
Exactement. Toutes les grandes promesses qu'il y a dans les prophètes, Chazal disent que lorsque Dieu a annoncé à Abraham Avinu que sa descendance sera en esclavage dans une terre qui n'est pas la leur, il a dit à la fin aussi, je jugerai le peuple qui leur a fait le mal. Ce mot jugera, c'est Dan, Anori, 2 lettres, Dan, Dalet Nun, Dan. Maintenant, à propos de la fin des temps, l'époque messianique, tout ce que je suis en train de parler, il y a des chapitres et des chapitres et des chapitres et des chapitres, pas 2 lettres, des chapitres entiers dans les prophètes. Alors, si les 2 lettres que Dieu a dit, Dan, ça fait tous les miracles sortis d'Égypte, tellement miraculeuses, alors imagine maintenant qu'est-ce qu'on va vivre avec les chapitres et chapitres entiers qu'il y a sur l'époque messianique. Ça va être, la sortie d'Égypte sera la gnognotte à côté, d'accord ? Par rapport à ce qu'on va vivre, Bézat Hachem, très bientôt, si on le mérite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pas tout le monde mérite. Sois clair. L'époque messianique, il faut mériter. La résurrection des morts, il faut mériter. Quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection des morts, il n'a pas droit. Quelqu'un qui prête à intérêt n'a pas droit à la résurrection des morts. Certains interdits font que quelqu'un, une personne n'a pas droit à cela. Pardon ? Je pense que ça dépend de la source de l'âme de la personne. En fonction de la source de l'âme, pour certains interdits, on le jugera plus difficilement que pour d'autres. Ce qui est clair, ces 2 interdits qu'on a parlé, ça c'est marqué clairement que ça empêche la résurrection des morts, ne pas y croire et le prêt à intérêt, mais certainement d'autres choses aussi. L'étude de Torah, celui qui n'a pas étudié la Torah n'a pas droit, c'est marqué, c'est la rosée qui fait vivre. Alors un rabbin a dit, tous ceux qui ont étudié la Torah, alors ils vivent, tous ceux qui n'ont pas étudié la Torah ne vivent pas. L'autre rabbin a répondu dans la Gemara, dans Sanhedrin, lui dit, t'es trop dur. Alors, tous ceux qui n'ont pas étudié la Torah, ils n'ont pas droit à la résurrection des morts. J'ai une solution. Tous ceux qui ont donné de l'argent pour aider les étudiants en Torah, ils ont part dans cette étude de Torah, donc grâce à cela, ils pourront vivre à la résurrection des morts. Mais quelqu'un qui n'a ni ça, ben non. Maintenant, pour tout, il y a tchouva. Si avant de mourir, avant que Mashiach arrive, on fait tchouva, alors tous les péchés sont changés en, ou soit effacés, soit changés en mitzvot, en fonction de la qualité de la tchouva. Dès que Mashiach arrive, c'est trop tard pour faire tchouva. Parce que dès qu'il y a un dévoilement de vérité, mon cher, tu travailles maintenant, il fallait travailler avant.
C'est-à-dire quoi la qualité de la tchouva ?
Si on fait tchouva par crainte, ça baisse d'un cran. D'un péché qu'on a fait sans volontaire, ça devient involontaire. Si c'est involontaire, ça efface. Mais si on fait une tchouva par amour de Dieu, alors ça transforme le péché en mérite. Plus tu as péché, plus tu as du mérite.
Quand Mashiach va venir, on dit que tous les Juifs vont venir en terre d'Israël.
Oui.
Mais il y aura encore la France, les
États-Unis. Bien sûr. Il y aura, tous les pays seront là. Et tous vont venir ici servir le Dieu d'Israël. Ils amèneront des sacrifices au temple. Mais Israël sera beaucoup plus grand. C'est-à-dire, il est écrit que les faubourgs de Jérusalem arriveront jusqu'à Damas. Évidemment, tout le monde voudra habiter Jérusalem. Donc elle va devenir une grande ville. Jérusalem est une ville beaucoup plus sainte que le reste d'Israël. Donc tout le monde voudra venir à Jérusalem. Là, à Ramoth, aujourd'hui, on a la périphérie, on sera le centre du centre de Jérusalem, d'accord ? Parce que les faubourgs, ça sera le périphérique qui passera par Beyrouth, Damas, Amman, Elat. Il y aura bien sûr, tous les goyim habiteront là-bas. Mais tous les juifs, tous les goyim habiteront à l'étranger. Il y en a qui viendront ici pour servir le Dieu d'Israël, mais tous les juifs habiteront la terre d'Israël.
Il y aura encore des goyim ?
Bien sûr qu'il y aura encore des goyim, bien sûr. Le but de l'époque messianique, c'est que l'humanité entière reconnaisse la grandeur de Dieu. Et nous, comme but, on aura de leur enseigner la Torah, bien sûr.
Ils pourront se convertir ?
Non. dès que l'époque messianique arrive, impossible de se convertir.
Pourquoi vous dites le Dieu d'Israël ?
Parce que l'autre devant d'Israël, leur Dieu c'est JC, d'accord ? Ou le Dieu de Mohammed, non, c'est le Dieu d'Israël. Ouais, c'est, on appelle OK Israël, OK nous.
Israël, ça fait, on dirait que nous on a un Dieu, il y a d'autres dieux qui sont.
Rashi explique comme ça, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Aujourd'hui, il est notre Dieu parce que nous on le reconnaît. À l'époque messianique, il sera un, tout le monde reconnaîtra qu'il est le Dieu, qu'il est le Dieu. Alors, c'est le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il sera le Dieu de l'humanité. Il est reconnu par toute l'humanité.
Le petit niveau qu'on a déjà de Torah, ça suffit pour.
Mon cher ami, je suis très loin de savoir, d'être secrétaire du bon Dieu, savoir comment il juge chaque personne, qui, quoi, comment, donc, où. J'ignore complètement, j'espère. J'espère qu'on passera bien à ta chaîne. Bah, on a, alors,